Bonjour à toutes et à tous, les chroniques financières sur CFM Rhodes et toutes les semaines à cette heure-ci, une émission proposée par Steve Bonneau. Bonjour Steve.
Salut David.
Steve, on le rappelle, conseiller en investissement à ICA Finance dans le centre-ville de Rhodes.
Exactement.
Et cette semaine, Steve, tu as eu envie de poursuivre, pour mon plus grand plaisir d'ailleurs, de développer la thématique de l'espace.
Oui.
Parce que investir dans l'espace, pourquoi pas?
On va y arriver.
On va y arriver, il y en a même qui arrive déjà. Hein. Alors, on va s'intéresser plus particulièrement à la Lune, qui est l'objet de nombreux désirs.
Oui.
À travers la planète,
tout
Terre.
À fait.
On va revenir sur la mission précédente pour préciser deux, trois concepts importants.
Voilà, parce que ce sont les concepts cardinaux du droit de l'espace.
Ah.
Tu vois, et donc, c'est vraiment important de bien les comprendre parce que c'est vrai que ça structure toutes les relations internationales, du moins jusqu'à aujourd'hui. Après, il y a eu des développements qu'on a mentionnés dans l'émission précédente, c'est-à-dire des développements en termes de réglementation domestique, par opposition à une réglementation internationale qui était discutée et gérée au sein de l'ONU.
On se souvient qu'il y avait de mémoire Luxembourg, États-Unis, peut-être Émirats Arabes Unis, qui avaient une législation propre.
Propre en particulier, et ça c'est un point qu'on va aborder, propre aux ressources spatiales, aux ressources naturelles de l'espace.
Ouais. Voilà. Ressources minières surtout, hein, parce qu'on n'allait pas encore aller chercher du blé là-haut. Ok, alors vas-y pour ces cardinaux, il y en a quatre ou c'était un mot?
Il y en a trois
d'accord.
Principaux, après il y en a d'autres qui se déclinent un petit peu derrière, hein. Mais on revient donc sur le premier des principes, en fait, qui est aussi au premier paragraphe du traité de 67 sur l'espace, qui est le principe de liberté.
Oui.
C'est-à-dire, tout le monde a le droit, librement, d'explorer et d'exploiter, et ça ce sont les mots des traités. Hein.
Ouais, exploiter.
Et d'exploiter donc l'espace extra-atmosphérique.
Mais alors, il n'y avait pas le petit hiatus. On peut exploiter tant qu'on veut, du moment qu'il n'y a pas une seule trace de vie sur ce qu'on ramène.
Alors c'est quelque chose, mais c'est un point super intéressant, qui a été introduit dans les législations domestiques.
Ah d'accord.
C'est-à-dire parce que, et on va y venir, si tu veux, dans l'architecture du droit international, telle qu'elle est jusqu'à présent, au niveau de l'ONU surtout, et même des autres labos qui ont planché dessus, il n'y avait aucune définition juridique de ce que constituait une ressource naturelle spatiale. Tu vois, c'était en dehors des traités. Et donc, c'est important, parce que quand on se pose la question de savoir est-ce qu'avec le droit actuel, le droit international actuel sur l'espace, est-ce qu'on peut exploiter ces ressources-là, je ne sais pas. C'est pas clair. Tu vois, il n'y a pas de réponse tranchée. Tu peux exploiter l'espace extra-atmosphérique en tant que corps céleste, le vide, comme les orbites, par exemple. Mais est-ce qu'on n'a jamais défini déjà dans les traités actuels ce qu'était une ressource naturelle spatiale et quel était son statut juridique? C'est-à-dire, est-ce que tu pouvais l'exploiter? Qu'est-ce que ça veut dire l'exploiter? Est-ce que ça veut dire que c'est à toi, pas à toi? Voilà,
parce que je pense, tu vois, par exemple, à un exemple récent, là, la capsule qui est revenue avec de la poussière de je ne sais plus quelle météorite il y a quelques jours. D'un certain point de vue, là, les chercheurs, ils sont dessus, ils ont trouvé plein de trucs. Bon, on est en train de l'exploiter.
Non, mais absolument.
D'une certaine façon, cet astéroïde.
Absolument. Mais là, ça reste dans le cadre de la science.
Ah, de la science, ouais.
Voilà. Donc, il y a un petit peu, si tu veux, cette parenthèse, en fait, en dire ça n'appartient à personne, mais ça reste dans le cadre de la science et donc tu as le droit d'exploiter, d'extraire en fait cette ressource parce que tu le fais en l'occurrence, on va dire, pour le bien commun de l'humanité.
Ouais.
Ce qu'on va trouver là-dedans, a priori, ça devrait être partagé avec tout le monde.
Ouais, mais il n'y en a pas assez pour l'instant.
Mais il y en a
très peu. Et tu dis, quand tu dis ça appartient à personne, c'est-à-dire que pour reprendre cet exemple-là de poussière de machin qu'ils ont récolté de 100 grammes, là, c'est je ne sais pas où à la NASA, mais en fait, ce n'est pas à eux.
Ah ben normalement
ils sont pas propriétaires de la matière.
Si tu veux, là c'est pas ça n'a pas été collecté dans un but commercial.
A priori non.
Donc c'est un but purement scientifique.
Ou à long terme.
Voilà. Ouais. Et ça tombe sous le coup, si tu veux, de du droit spatial tel qu'il est conçu jusqu'à présent. Donc
d'accord.
Là il y a pas de problème particulier.
Ok.
Ça aurait été SpaceX ou une autre société privée qui serait allée chercher de la poussière d'étoiles.
Ouais.
Là, on pourrait légitimement se poser la question et on serait vraisemblablement tombé sous la juridiction domestique américaine qui dit clairement que si SpaceX ou autre a réussi à aller chercher cet échantillon, ça lui appartient.
Parce que ça, c'est quand même... tu sais, il y a des gens pour tout, hein, pour payer des millions de dollars, pour juste commencer à être un peu en apesanteur, et puis t'as tout un tas de trucs. Donc ça, j'imagine, moi, dans très prochainement, que pour le business, qui vont vendre une fortune, des sociétés vont aller chercher des petits bouts de lune à droite à gauche, puis après on te fait des ventes aux enchères sur Terre.
Bah écoute,
ça partira.
Ouais, mais justement, c'est ce qui était intéressant dans le cadre du traité sur la Lune, c'était, et on y viendra, qu'il y avait plein de définitions qui ont été ajoutées au droit spatial, donc et notamment au traité sur l'espace de 67, qui venaient clarifier un petit peu tout
préciser
ça.
Préciser un petit peu.
Voilà. Ouais. Et c'est certainement parce qu'il y a eu ces clarifications et que c'était un traité international que personne, en réalité, n'a vraiment validé ça. Parce que, comme on le voit maintenant, c'est plus intéressant pour un État d'avoir sa propre juridiction domestique.
Oui.
On s'arrange à partir du moment où tu introduis du droit de propriété dans l'équation, il y a du conflit potentiel.
Oui, évidemment. Alors, les points cardinaux, donc tu nous as dit liberté, on a compris. En gros, on fait ce qu'on veut.
Voilà. Dans la limite, en fait.
Bien sûr.
Voilà.
Dans le cadre.
Et d'ailleurs, à ce propos, il n'y a aucune activité qui est vraiment précisée dans les traités. C'est-à-dire que tu es libre d'exploiter l'espace, mais qu'est-ce que ça veut dire en réalité?
Ah oui, on n'est pas obligé de creuser des trous.
À part, en fait, si tu veux, la contrainte de non-militaire. Alors, on ne va pas mettre d'armes destruction massive dans l'espace, sur l'orbite terrestre, etc. Donc, deux remarques. Premièrement, on parle exclusivement d'armes de destruction massive, mais la militarisation de l'espace est un fait.
Oui.
Donc là, on n'y revient pas dessus.
Non.
Et deuxièmement, dans le même traité, à part la Lune, si tu veux, et les autres corps célestes de mémoire, mais en tout cas pour la Lune, c'est certain, là, toute militarisation est exclue.
Ah, alors, mais la différence entre militarisation et armement.
Tu conduis pas, par exemple, tu construis pas, je sais pas moi, une base de combat sur la Lune. Okay. Tu mènes pas d'exercice militaire sur la Lune. La Lune, c'est exclusivement pacifique.
D'accord. Enfin, tu peux y mettre quand même des militaires.
Mais je sais pas.
Ouais. Ah, d'accord.
Parce que ça pourrait être assimilé à des manœuvres militaires. Donc là, c'est interdit. Ouais. Mais par rapport à l'orbite terrestre, où tout ce que tu ne peux pas mettre en orbite terrestre, ce sont des armes de destruction massive. Alors que tu peux mettre des satellites militaires, etc., etc., voire d'autres types d'armes, pourquoi pas. En revanche, sur la Lune, c'est exclu. C'est exclu dans les traités.
D'accord.
C'est écrit noir sur blanc.
C'est écrit depuis quand?
Depuis 67 et même avant, je crois.
Donc dès le départ. Dès le départ.
Ça, c'est vraiment une clause. Ouais. C'est une clause, en fait, c'est une clause du traité. Donc ça, sur cet aspect-là, il n'y a pas d'ambiguïté.
D'accord.
Donc j'en reviens donc justement à ce que tu disais tout à l'heure. C'est un moment, donc on aura plein d'entreprises qui vont dire tiens, je vais prendre ce bout, etc. etc. Et si tu te rappelles bien, la fois précédente, on a parlé du deuxième principe important, celui de non-appropriation.
Ah oui.
C'est-à-dire que aucun État ne peut en fait revendiquer sa souveraineté sur une partie de l'espace extra-atmosphérique.
D'accord. Mais alors, tout
ni
ça, c'est...
les corps célestes, ni les orbites, ni rien du tout.
Ouais. Alors la souveraineté, donc ça veut dire qu'on n'a pas le droit de dire c'est une partie de la France qui est désormais sur la Lune.
Voilà.
Mais ça n'empêche pas qu'on a le droit de s'installer, de faire des murs.
Ça dépend, justement. Parce qu'à partir du moment, imagine que tu décides de construire une base.
Ouais.
Ok. Bon, là, tu occupes de manière permanente quand même un coin de l'espace. Le premier principe de liberté dit tu dois garantir l'accès à l'espace, à tout coin de l'espace.
Ah bah ouais, mais bon, à ce moment-là, on fera jamais rien nulle part. Ça, ils vont s'arranger. Attends.
Voilà. Tu vois, c'est assez subtil, en fait. Et alors, pour continuer sur le principe de non-appropriation...
C'est comme si on disait, tu vois, il y avait eu des traités au moment du sport, là, je pense à ça, des Jeux Olympiques, on dit il est interdit aux coureurs de 100 mètres de courir à plus de 100 km/h. Alors effectivement, ça n'arrive pas, c'est interdit de toute façon. Bon, jusqu'au jour où il y a un mec qui arrivera,
voilà,
on dira.
Exactement.
Bon, attendez, on va faire 120 maintenant.
Et jusqu'au jour où tu auras un mec qui arrivera.
Oui. Tout à fait, bon, d'accord.
Donc tu vois, le principe de non-appropriation, si tu te rappelles, ça avait été mis en avant pour éviter d'exporter dans l'espace extra-atmosphérique les conflits qui potentiellement arrivent sur Terre, les conflits militaires.
Malheureusement.
Oui, c'est ça, exactement. Oui. Donc, tu vois, il y a cette interprétation-là, mais tu pourrais très bien dire, on ne va pas planter un drapeau et dire ça, c'est à moi.
Ouais.
En revanche, tu pourrais dire, ok, ben on colonise pas, mais on peut exploiter les ressources naturelles.
Ouais. Tu sais, ça me fait penser à des propriétés du droit, les grands principes. Là, il y a le, je sais plus quoi, et l'abusus. Ça, t'as le droit d'user.
Ah ben ça, c'est le droit de propriété. Ouais, les trois composantes du droit de propriété.
Il y a des parties où tu peux...
L'usus, le fructus et l'abusus. L'abusus.
Voilà, bon bah là, l'abusus, c'est non, mais t'as le droit d'un peu de fructus sur la lune. Non ? Ils vont s'arranger avec des trucs comme ça.
Ils vont se débrouiller. Ouais. Hein. D'accord. Mais donc, tu vois, en fait, la subtilité de la chose. Et alors, c'est intéressant parce que quand tu lis les minutes des préparations, des meetings qui se sont tenus aux Nations Unies...
Tu l'as lu ? Tu les as lues ?
Ouais, j'en ai lu quelques-unes. Ah bah, ouais.
Mes félicitations.
Merci.
Parce que d'être un peu longue, ces minutes.
Oui, mais c'est très bien, c'est très bien organisé. Si tu vas sur le site des Nations Unies, donc sur la section espace, donc tu as tous les traités et puis les minutes, etc. Ouais. Oui, c'est vachement bien fait.
En anglais, hein, j'imagine. Ah, peut-être en français, puisque du français.
Oui, tu les as en français. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que tu avais à l'époque, justement, pour revenir sur cette question de l'exploitation des ressources spatiales, tu as le représentant français qui avait posé la question explicitement.
C'est-à-dire
que dans le mot, alors c'est en anglais, c'est dans le mot use, donc utilisation, est-ce que ça entend ou est-ce que ça comprend l'utilisation des ressources naturelles spatiales ?
D'accord.
On n'a pas eu de réponse.
Le français a demandé une précision et puis on a fait comme si on ne l'avait pas entendu.
Bah, disons qu'elle est. Enfin, tu te rappelles du contexte, c'est la guerre froide, c'était compliqué.
Ouais.
Donc, il y a un troisième principe dont on a parlé un petit peu qui est celui de l'utilisation pacifique.
Ah oui.
De l'espace. Voilà. Donc là aussi, c'est un petit peu quelque chose de fourre-tout.
Bah ouais.
Parce que voilà, c'est là où on se dit bon, ben, pas d'armes de destruction massive en orbite. En revanche, militarisation, bah oui. À part sur la Lune.
D'accord.
Donc là, c'est vraiment. Niet. Ouais, c'est non.
Rien de rien. Mais même un canif ?
Rien.
Ah bah, on rigole pas sur la Lune. D'accord.
Donc, conclusion de tout ça.
Oui.
Ce que nous dit le droit international sur l'espace, c'est que oui, on peut exploiter en fait l'espace extra-atmosphérique, ça c'est autorisé, mais on ne s'est pas posé plus en avant la question des ressources.
Voilà, de ce qu'on pouvait... Voilà.
Que c'est qu'une ressource spatiale ?
Ouais, déjà.
C'est quoi ? Est-ce que c'est une orbite ? Est-ce que c'est les minéraux que tu vas trouver sur les corps célestes ? Ça n'a pas été traité. Tu vois, donc là, oui à l'exploitation de l'espace extra-atmosphérique. Le terme, d'ailleurs, n'est jamais défini non plus clairement.
Bah ouais,
c'est
non,
quoi,
y a toujours
ça commence à quelle hauteur,
bah ouais, l'espace,
voilà. Ouais. Mais, niet sur les ressources. On ne sait pas. En fait, pour l'instant, les ressources naturelles spatiales n'étaient pas définies juridiquement. Et donc, bah, la notion de propriété sur les ressources n'a pas été abordée ou exploitée. Donc, voilà. Donc là... On en était resté un petit peu là.
D'accord.
Si tu veux, au niveau du droit international.
Je comprends.
Arrive là-dessus. Alors.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Donc, après, il y a eu certaines discussions. Donc, est-ce qu'on va introduire quand même un droit de propriété, même restreint, sur une partie des ressources spatiales ? Parce que derrière, évidemment, ça fait quelques années maintenant, mais il y a tout ce new space qui s'est mis en place. Et c'est vrai que c'est quand même des investissements privés à la base. Et que pour un investisseur privé, s'il n'y a pas de clarté juridique derrière, c'est compliqué.
C'est un business risqué, oui.
Et oui.
Tu ne le fais pas normalement.
Parce que tu vas quand même déployer des quantités énormes d'investissements. Si derrière on te dit, oui mais attendez, ça ne vous appartient pas ce que vous allez chercher là-haut, voilà,
oui,
j'y réfléchis à deux fois.
Ouais, bien sûr. Ouais.
Donc c'est important de traiter la question de la propriété.
Mmh. Alors, parce qu'autant les grandes agences spatiales mondiales, bon, elles font un peu de business, mais elles coûtent beaucoup plus cher que ce qu'elles rapportent. C'est plutôt de la science, de l'exploration, machin. Quand on est dans le cadre d'une entreprise privée, ce qui se comprend très très bien, au moins pour que ça continue, il faut gagner de l'argent. Quoi.
Ben oui, exactement.
Donc, donc voilà.
Et donc il faut savoir où on met les pieds juridiquement.
Oui, c'est quoi le cadre
D'ailleurs, c'est pour ça, en fait, que tu as vu qu'aux États-Unis, ils ont introduit ces législations domestiques pour clarifier un petit peu, si tu veux, le cadre légal. Voilà. Mais là-dessus vient le traité sur la Lune.
Ah, le traité sur la Lune. Donc, ce n'est pas un traité qui a été signé sur la Lune.
Non, pas tout à fait.
Non, voilà, pas encore. Mais c'est un traité donc, autour de l'objet Lune.
Voilà. C'est vraiment un traité intéressant.
Il date de quand celui-là ?
79.
Ah, ouais, moi j'étais déjà né.
Oui, moi aussi. Ouais.
Ah, confidence. Donc oui, alors, pardon.
Déjà, ce qui est vraiment intéressant sur ce traité, alors quand tu le compares par exemple au traité OST, donc le traité sur l'espace de 67, qui est un traité, on va dire, général en ce qui s'applique à l'espace
extra... Ouais, c'est les grands principes, quoi. Voilà. Bon, c'est un premier jet.
Extra-atmosphérique, donc c'est, ça comprend, comme on disait, les corps célestes, etc., etc., le vide intersidéral, tout ça, très bien, c'est parfait. Le traité sur la Lune est beaucoup plus ciblé.
Il est sur la Lune.
Oui, non, non, il s'étend au système solaire.
Ah bon ?
Voilà.
Bah pourquoi on l'a pas appelé le traité sur système solaire ?
Mais je sais pas, j'étais pas. Enfin, j'étais né, mais pas à la table des négociations.
Le traité sur la Lune, en fait, s'applique à tout le système solaire.
Ouais, au donc il est confiné au système solaire. Bah, c'est un sous-espace.
Ouais, ouais, ouais,
donc c'est un droit. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça devient un droit local.
Oui.
Oui.
Puisque l'univers est plus grand que le système solaire.
Au-delà du système solaire, c'est le traité sur l'espace de 67.
Ouais.
À l'intérieur, c'était censé être le droit développé à partir du traité sur la Lune de 79.
D'accord. Donc, ce que tu vas nous dire à propos du traité sur la Lune, c'est valable aussi pour Mars, qu'on commence à envoyer des robots pour faire des bricoles.
Sauf que ce n'est pas un traité qui est entré en vigueur de partout et donc il n'est pas appliqué.
Alors, d'accord. Oh non, mais ça là-dessus,
on pourra y revenir.
Alors, qui n'a pas signé ? La France, elle a signé ?
Alors, la France l'a signé, mais elle n'a jamais ratifié. Alors là, il faudrait quand même que je vérifie, mais je crois que c'est ça.
Ouais.
Comme beaucoup d'autres pays, en fait.
D'accord.
Et donc, si tu veux, aujourd'hui, je crois qu'il y a une poignée de pays qui l'ont effectivement signé et ratifié.
Peut-être le Luxembourg, qui ira pas demain la veille sur la Lune. Ah, bon, d'accord.
Mais pas suffisamment, si tu veux, pour qu'il ait un caractère universel.
Ok, bah ouais.
Si donc, ça veut dire que, pour l'instant,
ça a été une tentative de quelque chose.
Ouais, ça a été une tentative. Et alors, quelque chose. Il a trois points, en fait, qui sont vraiment remarquables. Il introduit, en fait, trois concepts qui n'étaient pas dans le traité OST original.
Mm-hmm.
Premier concept, celui de patrimoine commun de l'humanité. Mm-hmm. Alors, ça, si tu te souviens, c'est quelque chose qui a été emprunté au droit de la mer.
Oui.
Le patrimoine commun de l'humanité, ça a été un concept qui a été utilisé. Alors, c'est l'ambassadeur de Malte, je crois que ça s'appelait Monsieur Pardo à l'époque, qui avait...
Devait avoir le temps pour s'occuper de ça, l'ambassadeur de Malte. D'accord.
Qui avait un petit peu conceptualisé ça, et ça s'appliquait en fait aux grands fonds marins au-delà du plateau continental. Alors, pour le droit de la mer, en fait, grosso modo, donc on découpe... si tu veux, toutes les surfaces maritimes en plusieurs sections. Donc, tu as la mer intérieure, tu as les eaux territoriales, tu as l'espace contigu, tu as la ZEE, donc la zone économique exclusive. Tu as le plateau continental et tu as la haute mer.
D'accord.
Voilà. Et donc, toutes les richesses, en fait, qui se trouvent au-delà du plateau continental, sont tombées sous le coup, en fait, de ce concept de patrimoine commun de l'humanité.
Ah ouais, d'accord.
C'est juridiquement, ça veut dire que on peut pas tellement y toucher sans...
Alors à l'époque, ils avaient décidé ça parce que de toute façon, on ne pouvait pas y aller. Mais ces derniers temps...
Mais c'est un peu ça aussi pour le spatial.
Ah oui, c'est pareil. Mais ces derniers temps, moi, ça fait quelques années, mais ça doit coûter encore trop cher. Ils le font pas, mais ils ont remarqué qu'au fond de certains océans, il y avait quand même des sacrés métaux à récupérer quasiment à la pelle. Donc, quand ça va devenir rentable, ils vont dire, attends, il y a le patrimoine commun, mais pas les cailloux, là.
Ouais. Je crois que je disais ce matin dans le journal qu'ils ont même fait une découverte qu'a priori, il y aurait une mer, en fait, enfermée sous...
La croûte
sous
terrestre.
Bon, on est encore... on apprend quand même encore beaucoup de choses tous les jours.
Ça, c'est bien. Moi, j'aime bien.
C'est fascinant, quoi. Et donc, ce concept de patrimoine commun de l'humanité, il a été appliqué, donc, à la Lune... et à ses ressources, donc sur le modèle en fait de celui qui avait été développé
pour les
grands fonds marins, sauf que pour éviter, et ça c'est très astucieux, pour éviter en fait qu'on se retrouve dans les mêmes problématiques d'interprétation que dans le cadre du droit de la mer, on a dit là dans le cœur du traité que ce concept-là s'applique en référence à ce traité uniquement, et en particulier, je crois que c'est la clause 5 du traité qui vient s'appliquer. Donc, ça veut dire qu'on va interpréter ça uniquement dans le cadre de ce traité-là, sans avoir recours à quelque chose d'extérieur au traité, si tu veux, qui peut être, en l'occurrence, les problématiques maritimes qui s'appliquaient alors.
D'accord.
Voilà. Okay. Pourquoi on a fait ça? Tout simplement, alors, il y a une convention de Vienne, je crois, sur l'interprétation des traités.
Oh,
Ben oui.
Un traité sur l'interprétation des traités.
Ben oui.
Ben oui.
Justement.
Ben
et donc là, on s'est appuyé en fait sur cette convention-là pour dire, ben voilà, la manière d'interpréter ce concept de patrimoine commun de l'humanité appliqué à la Lune, c'est uniquement défini par le traité lui-même. On ne va pas aller rechercher des références extérieures au traité. Oh, okay. Pour, bah, tu vois, pour définir les actions qu'on peut et qu'on ne peut pas faire.
D'accord, mais alors ça veut dire que celui sur l'île, il faut qu'il soit assez précis, soit qu'il soit tellement vague que finalement ça ne veut plus rien dire.
Ouais, et il était particulièrement précis.
D'accord.
Tu vois, et c'est le deuxième point, parce que pour la première fois dans l'histoire du droit spatial, du droit de l'espace extra-atmosphérique, soyons plus précis, on définit juridiquement ce qu'est une ressource naturelle.
Ah !
Eh oui !
C'est pas trop tôt.
Eh ben non, tu vois. Et donc, c'était quelque chose de remarquable.
Ah ouais,
parce que là, on avait à cœur de vraiment encadrer donc, l'usage des ressources naturelles de l'espace, comment les exploiter, etc. Donc là, on définissait juridiquement ce qu'était une ressource.
Alors, vas-y, balance la définition de la ressource naturelle.
Eh ben, écoute, la définition de la ressource naturelle, c'est plus ou moins, en fait, la même chose que ce qu'ont repris les Américains et les autres. C'est-à-dire, ben voilà, c'est une ressource que tu peux exploiter qui est abiotique. Donc, il n'y a pas de trace de vie.
Ah oui, il y a quand même ce point-là.
Ah, non, c'est important.
Bah, c'est important, ça dépend de la trace de vie. Si c'est tout un village de petits hommes verts, je te dis d'accord, éventuellement, ou alors on va les déménager. Si c'est des machins invisibles à l'œil nu qu'il y en a partout, pourquoi pas faire un trou, comme on ne se gêne pas depuis...
Ouais, mais bon, voilà. Sauf que dans ce cas-là, tu pourras difficilement les ramener sur Terre parce qu'il faudra quand même les étudier un minimum avant, parce que là, c'est quand même des EBE, des entités biologiques extraterrestres. Tu ne peux pas te permettre de les ramener sur Terre en disant
on verra bien. Au début, ça ferait sensation, mais après, on s'habituerait.
Certainement,
bon, ouais. D'accord, ok.
Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de remarquable que ce traité de 79, déjà de ces deux points de vue-là, parce que ça, c'est un progrès par rapport à ce qu'il y avait avant. Là, maintenant, tu définis juridiquement ce qu'est une ressource naturelle spatiale.
Ouais.
Et troisième point, tu définis le régime d'exploitation de ces ressources.
C'est-à-dire
comment tu peux les exploiter.
On va créer une entreprise ? T'as le droit de...
Non, et justement, alors c'est un régime qui avait ceci en fait d'assez, on va dire, pragmatique, qui était basé donc sur autre chose que de la propriété, mais qui était parfaitement conscient, et on en parlait il y a deux minutes, des limites technologiques de l'époque, et qui s'est dit, bah, plutôt que d'encadrer tout de suite comment on pourrait ou ne pourrait pas faire, on s'est dit, au fur et à mesure que la technologie devient disponible, on va forcer les nations à se mettre d'accord sur comment exploiter ces ressources.
D'accord. Et alors, ça donne
quoi ? Donc, c'était relativement vague, mais pas suffisamment, si tu veux, pour dire bah, on peut faire n'importe quoi.
Là, ce n'est pas de sens. Ouais.
Mais ça permettait, si tu veux, de commencer déjà à poser un cadre. Il n'y a pas de propriété privée.
Ouais.
Ça, c'est clair et net. Mais on va, au fur et à mesure que la technologie devient disponible...
Ouais.
Décider de comment on va exploiter dans ce cadre-là, hors propriété privée.
Alors, ça veut dire qu'on peut exploiter. Dans ce traité, il est sous-entendu qu'éventuellement une entreprise commerciale pourra exploiter des ressources naturelles de la Lune, mais qu'elle n'en serait pas propriétaire.
Qu'elle n'en serait pas propriétaire.
C'est bizarre quand même, mentalement, enfin, à se projeter dans ce truc-là.
Oui, mais si tu veux, et ça fait réfléchir un petit peu, bah, c'était une partie de ma réflexion quand j'écrivais ce mémoire en disant mais ok. Comment est-ce que tu peux en fait gagner de l'argent en faisant une chose comme ça? Et si tu te rappelles la dernière fois, on a parlé de l'hélium-3, qui est ce substrat qui serait en abondance a priori sur la surface de la Lune.
Ouais, bon, pour faire du carburant,
voilà,
de l'eau, tout
sur les centrales, comme combustible pour les centrales nucléaires, avec l'avantage que ça ne produit aucun déchet radioactif.
On fera quand même sur la Lune la première fois pour être sûr. Moi, je préfère. Bon, après, non, mais d'accord.
Je pense que les scientifiques ont fait leurs calculs, mais
tu sais, à calcul, des fois, on se trompe.
C'est
mais non, t'as raison.
Et donc, en fait, l'idée, c'est de se dire, bon, eh bien, on pourrait parfaitement mandater une entreprise privée pour aller chercher, en fait, simplement ces ressources en hélium-3, les ramener sur Terre et la payer pour ça.
Oui.
Elle ne serait pas propriétaire des ressources.
Non, mais du service.
Mais du service.
Oui, d'accord.
Tu vois ? Et là, ça peut être tout aussi intéressant.
Ouais, ça tiendra un temps, mais ça, à un moment donné, quand on trouvera autre chose, quoi que l'M3, c'est intéressant. Mais bon,
Mais c'est pour ça, si tu veux. Mais là, c'est absolument le cas. C'est-à-dire que tu as vraiment, rappelle-toi, ces deux écoles de pensée hein, qui se disent, la première école, en fait, qui veut une interprétation très stricte, justement, en fait, du concept de non-appropriation, ouais. Pour éviter que... Parce que l'idée, c'est quoi? C'est de se dire que dès que tu introduis un droit de propriété, tu introduis des conflits.
Force est de constater que ça arrive souvent.
Alors, soit tu dis, il n'y a pas de droit de propriété, pour éviter justement d'avoir ces conflits ou d'importer ces conflits dans l'espace extra-atmosphérique. Soit tu te dis, on n'a pas forcément besoin d'avoir un concept aussi strict, puisqu'il y a le fameux concept de la liberté d'accès et d'exploitation de l'espace. Et donc, on pourrait quand même introduire un droit de propriété, etc. Voilà, donc ça, c'est pas tranché. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle tu as des pays comme les États-Unis, le Luxembourg et les Émirats qui ont décidé, en fait, d'inscrire dans leur juridiction domestique ce droit à la propriété sur les ressources abiotiques collectées par leurs entités.
Et alors, c'est la situation juridique. Elle permet aussi, du coup, là, depuis les années 2000, les différents multimilliardaires américains, notamment, qui sont lancés dans l'espace, l'industrie spatiale, c'est qu'ils se disent quelque part, même si c'est à très long terme, et d'ici là, on ne sait pas, c'est qu'il y a du business.
Mais tu vois, là où, à mon avis, il faut s'interroger, c'est que tu regardes ce qui est en train de se passer au niveau des États-Unis avec leur accord Artemis.
L'accord Artemis, c'est programme Lune, machin,
c'est pour retourner sur la Lune, si tu veux, et quelque part mettre en place au moins l'exploitation scientifique. Mais scientifique, on connaît bien les Américains, quelque chose qui cache souvent autre chose. Mais ils sont en train, grosso modo, d'introduire un nouveau traité sur la Lune à leur sauce. Et là, en fait, on pourrait faire un parallèle entre est-ce qu'il est plus intéressant de remettre sur le tapis un traité qui a été négocié en 79 et qui est astucieux, et qui a quand même été... malgré tout signé par plusieurs pays, ou est-ce qu'il est préférable de regarder ce que propose Artemis et dans quelles conditions, et de voir en fait...
quel droit on fait autour.
Quel droit on fait autour, et si c'est un droit qui ne va pas générer des conflits, ce qui est probable.
De toute façon...
Si tu veux, parallèlement à Artemis, je te rappelle qu'ils ont mis en place ce qu'ils appellent une Space Force...
Remarque, nous aussi en France, c'est le ministère de la Défense et de l'Espace. Maintenant, tout le monde se met la pelote.
Bien sûr. Donc, il faut se poser les bonnes questions.
Bon, alors, le traité sur la Lune, il date de 79. Celui sur l'espace, 1967, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Mais c'est-à-dire que là, alors que les techniques, et puis on voit bien qu'il y a des choses qui sont faites ces 20 dernières années dans l'espace, quand même, après une période où, là, il y a des gens qui se remettent un petit peu à bosser ou il y a des traits. Alors, tu vas me dire, l'ONU, ils ont autre chose à foutre en ce moment, peut-être.
Ce que je disais tout à l'heure, moi j'appelle ça des laboratoires de droit, mais c'est plus des groupes de travail ad hoc, si tu veux. Donc il y en a un qui travaille à La Haye, aux Pays-Bas, comme d'habitude, et qui ont mis en fait ce qu'ils appellent des building blocks. Donc ce sont en fait qu'un peu des briques juridiques, pour développer ou travailler ou faire évoluer ou améliorer tout l'architecture du droit international spatial. Donc, et là, on va retrouver en fait dans ces building blocks ces notions potentiellement de propriété, etc., d'exploitation des ressources spatiales, de définition juridique des ressources spatiales. Mais ça reste un travail local aussi. Tu vois, c'est plus de la soft law. C'est plus des codes de conduite que vraiment quelque chose de contraignant.
Bon, écoute, à surveiller tout ça, parce que c'est, à mon avis, ça va évoluer.
Là, de toute façon, au vu des investissements, au vu de ce qui se passe, c'est une partie du droit qui est vraiment fascinante, quoi.
Bon, tiens, en parlant d'investissement et en revenant sur Terre, là, juste un petit mot sur l'actualité terrestre. Des marchés financiers, l'économie mondiale, t'as pas de grande annonce à nous faire?
Tout le monde est vraiment dans l'expectative de ce qui se passe. Un peu de partout,
C'est un problème.
Donc, évidemment, il y a des tensions géopolitiques au Moyen-Orient, donc ça pèse un petit peu sur les marchés. Mais t'as pas que ça. T'as aussi l'inflation. T'as aussi le 10 ans américain qui se rapproche des 5%. On était à 4,75 tout à l'heure. Donc, c'est anxiogène un petit peu, si tu veux, pour les investisseurs. Surtout les taux, parce que évidemment, plus les taux montent et plus les actions baissent.
Ah bon ?
Eh oui, parce qu'en fait c'est un petit peu
et la oui, valeur parce qu'on temps. Gagne de l'argent, on gagne plus de l'argent.
Selon c'est quoi, le principe, l'explication, ouais. L'explication en fait, si tu veux, c'est la valeur, alors je sais pas comment on dit en français, la valeur actuelle en fait des flux futurs.
Oui, d'accord.
Tu vois, quand tu achètes une action, bah, tu achètes une partie de la croissance, une de partie des futur. Dividendes, ouais. Et ça, tu dois la ramener au temps présent. Et si tu veux, plus les taux sont hauts et plus cette valeur présente est basse.
Ouais, d'accord.
Et donc, voilà. Et pareil pour les obligations.
Et alors, j'ai un truc que je me demandais, tiens, à propos de ça, tous ceux qui ont acheté, alors, bon, peut-être pas des particuliers, mais tu sais, quand l'inflation, elle était à zéro, et puis qu'il y avait des États qui vendaient, qui n'en veulent, quoi, leurs emprunts, à 1, 2%. Là, quand t'es à 1, 2%, que tu en as plein les poches, parce qu'à un moment donné, bah, c'était une sécurité, et puis il fallait bien placer son argent quelque part, et puis c'est toujours mieux que 1 que 0. Bon, mais là, ce 1%, maintenant que tu perds de l'argent, et ces produits-là, en fait, bon, tu peux les garder, tu te dis, bah, tant pis, je perds, mais bon, je perds moins que si je perdais tout. Mais tu peux aussi les revendre. Ça se revend, ça ?
Oui, ça se revend.
Ben, ça doit pas se revendre cher, hein, un truc qu'on te.
Comme on dit communément, t'es dans la nasse.
Et ouais, parce que
ah, truc, ben là, tu as pris cher.
Ah ouais, quand t'as acheté quelque chose qui te rapporte 1% par an alors que l'inflation est là de 5, bah, alors, le revendre à quelqu'un d'autre.
Ben, je te dis, plus les taux de coupons sont faibles,
ouais.
Si tu veux, et c'est quoi ? Grosso modo, pour te donner un ordre d'idée, un emprunt 10 ans,
ouais.
Avec un coupon très très faible, pour 1% de hausse des taux, il perd 10% le truc.
De sa valeur ?
Ouais. Donc fais le calcul, on
donc,
est passé
maintenant...
Donc ça a perdu
40% là en un an ? Non.
Ah ben, ça a pris des... Ah ben oui, ça a pris des roustes, hein.
Ouais, mais comment, alors dans une parenthèse, dans ces cas-là, les gens qui empruntent, bon, il y a des cas, c'est juste machin, mais d'autres fois, c'est pour se couvrir d'autres choses. Donc la valeur de la chose, elle est importante. Si elle en perd, t'es plus dans tes.
Ah, bah oui, mais ça, c'est le job du gérant, en fait, si tu veux, de s'assurer que, bah voilà, s'il avait une vue, par exemple, imaginons qu'il y a il y a 10 mois en arrière, il avait une vue sur les taux qui lui disait, bon, bah, allez, avec mon anticipation sur les taux, si j'achète un emprunt de 10 ans à 2% de coupon, je suis pas trop mal. OK, bon, soit il a acheté sans se couvrir, bon, bah, là, il a pris pas tout à fait 10% parce qu'il y a des coupons, mais disons qu'il a pris la hausse des taux brutalement. Après, si la personne a été un peu plus prudente et qu'elle s'est protégée avec un instrument dérivé... Bah, il aura pu gérer la baisse.
Ouais, il rentre.
Mais
il rentre une partie.
En fait, c'est rare que la couverture soit parfaite.
Ouais.
Et puis, il faut la rouler. La couverture, elle n'est pas sur 10 ans. Tu vois. Donc, bon, est-ce que tu as couvert 100%? Auquel cas, tu peux te poser légitimement la question, à quoi ça sert?
Oui.
Voilà. Oui. Tu vas couvrir ton risque de taux.
Si tu te couvres complètement, il n'y a plus de gain possible.
Et puis, tu vas... Ouais. Voilà, si tu te couvres pendant toute la durée de ton instrument, tu vas récolter 1 ou 2% de coupons, donc trois fois rien. Ça ne sert à rien. Mais en réalité, en fait, effectivement, la partie obligataire a pris, c'est vraiment, vraiment, vraiment cassé la figure. Et on le voit au niveau des valorisations des fonds. Voilà. Mais... Bon, maintenant, on est sur d'autres niveaux. Il y a des fonds, il y a des gérants qui ont été quand même un petit peu plus astucieux et qui se sont diversifiés, qui se sont mieux protégés.
Ouais.
Donc, ces gérants-là, je trouve que c'est intéressant de les avoir en portefeuille. Parce que du coup,
voilà. Bien vu. Bon, écoute, Steve, on se retrouve la semaine prochaine.
Oui.
J'espère qu'on restera dans l'espace.
Je pense qu'on restera dans l'espace.
On dira même volontiers. Voilà. Bon, volontiers.
Il y a plein de choses à dire.
Bonne semaine à toi sur Rhodes. Merci, Steve.
Merci, David.